Chapitre 132. Psychologie royale. Le roi rentra dans ses appartements d'un pas rapide. Peut-être Louis XIV marchait-il si vite pour ne pas chanceler. Il laissait derrière lui comme la trace d'un deuil mystérieux. Cette gaieté, que chacun avait remarquée dans son attitude à son arrivée et dont chacun s'était réjoui, nul ne l'avait peut-être approfondie dans son véritable sens. Mais ce départ si orageux, ce visage si bouleversé, chacun le comprit, ou du moins le crut comprendre facilement. La légèreté de madame, ses plaisanteries un peu rudes pour un caractère ombrageux et surtout pour un caractère de roi, l'assimilation trop familière sans doute de ce roi à un homme ordinaire, voilà les raisons que l'assemblée se donna du départ précipité et inattendu de Louis XIV. Madame, plus clairvoyante d'ailleurs, n'y vit cependant point d'abord autre chose. C'était assez pour elle d'avoir rendu quelques petites tortures d'amour-propre à celui qui, oubliant si promptement des engagements contractés, semblait avoir pris à tâche de dédaigner sans cause les plus nobles et les plus illustres conquêtes. Il n'était pas sans une certaine importance pour madame, dans la situation où se trouvaient les choses, de faire voir au roi la différence qu'il y avait à aimer en haut lieu ou à courir l'amourette comme un cadet de province. Avec ses grandes amours, sentant leur royauté et leur toute-puissance, ayant en quelque sorte leur étiquette et leur ostentation, un roi non seulement ne dérogeait point, mais encore trouvait repos, sécurité, mystère et respect général. Dans l'abaissement des vulgaires amours, au contraire, il rencontrait, même chez les plus humbles sujets, la glose et le sarcasme. Il perdait son caractère d'infaillible et d'inviolable. Descendu dans la région des petites misères humaines, il en subissait les pauvres orages. En un mot, faire du roi Dieu un simple mortel en le touchant au cœur, ou plutôt même au visage, comme le dernier de ses sujets, c'était porter un coup terrible à l'orgueil de ce sang généreux. On captivait Louis plus encore par l'amour-propre que par l'amour. Madame avait sagement calculé sa vengeance, aussi, comme on l'a vu, s'était-elle vengée. Qu'on n'aille pas croire cependant que madame eut les passions terribles des héroïnes du Moyen-Âge et qu'elle vit les choses sous leur aspect sombre. Madame, au contraire, jeune, gracieuse, spirituelle, coquette, amoureuse, plutôt de fantaisie, d'imagination ou d'ambition que de cœur, madame, au contraire, inaugurait cette époque de plaisirs faciles et passagers qui signala les 120 ans qui s'écoulèrent entre la moitié du XVIIe siècle et les trois quarts du XVIIIe. Madame voyait donc, ou plutôt croyait voir les choses sous leur véritable aspect. Elle savait que le roi, son auguste beau-frère, avait ri le premier de l'humble Lavallière et que, selon ses habitudes, il n'était pas probable qu'il adorât jamais la personne dont il avait pu rire, ne fût-ce qu'un instant. D'ailleurs, l'amour-propre n'était-il pas là, ce démon souffleur qui joue un si grand rôle dans cette comédie dramatique qu'on appelle la vie d'une femme? L'amour-propre ne disait-il point tout haut, tout bas, à demi-voix, sur tous les tons possibles, qu'elle ne pouvait véritablement, elle, princesse, jeune, belle, riche, être comparée à la pauvre Lavallière, aussi jeune qu'elle, c'est vrai, mais bien moins jolie, mais tout à fait pauvre. Et que cela n'étonne point de la part de madame. On le sait, les plus grands caractères sont ceux qui se flattent le plus dans la comparaison qu'ils font d'eux aux autres, des autres à eux. Peut-être demandera-t-on ce que voulait madame, avec cette attaque si savamment combinée. Pourquoi tant de forces déployées s'il ne s'agissait de débusquer sérieusement le roi d'un cœur tout neuf dans lequel il comptait se loger? Madame avait-elle donc besoin de donner une pareille importance à Lavallière si elle ne redoutait pas Lavallière? Non, madame ne redoutait pas Lavallière au point de vue où un historien qui sait les choses voit l'avenir ou plutôt le passé. Madame n'était point un prophète ou une sibylle. Madame ne pouvait pas plus qu'un autre lire dans ce terrible et fatal livre de l'avenir qui garde dans ses plus secrètes pages les plus sérieux événements. Non, madame voulait purement et simplement punir le roi de lui avoir fait une cachotterie toute féminine. Elle voulait lui prouver clairement que, s'il usait de ce genre d'armes offensives, elle, femme d'esprit et de race, trouverait certainement dans l'arsenal de son imagination des armes défensives à l'épreuve même des coups d'un roi. Et d'ailleurs, elle voulait lui prouver que, dans ces sortes de guerres, il n'y a plus de rois, ou tout au moins que les rois, combattant pour leur propre compte comme des hommes ordinaires, peuvent voir leur couronne tomber au premier choc. Qu'enfin, s'il avait espéré être adoré tout d'abord de confiance à son seul aspect, par toutes les femmes de la cour, c'était une prétention humaine, téméraire, insultante pour certaines plus haut placées que les autres, et que la leçon, tombant à propos sur cette tête royale, trop haute et trop fière, serait efficace. Voilà certainement quelles étaient les réflexions de madame à l'égard du roi. L'événement restait en dehors. Ainsi, l'on voit qu'elle avait agi sur l'esprit de ses filles d'honneur et avait préparé dans tous ses détails la comédie qui venait de se jouer. Le roi en fut tout étourdi. Depuis qu'il avait échappé à M. de Mazarin, il se voyait pour la première fois traité en homme. Une pareille sévérité de la part de ses sujets lui eût fourni matière à résistance. Les pouvoirs croissent dans la lutte. Mais s'attaquer à des femmes, être attaqué par elles, avoir été joué par de petites provinciales arrivées de Blois tout exprès pour cela, c'était le comble du déshonneur pour un jeune roi plein de la vanité que lui inspirait à la fois et ses avantages personnels et son pouvoir royal. Rien à faire, ni reproche, ni exil, ni même bouderie. Boudé s'eût été avoué qu'on avait été touché, comme Hamlet, par une arme démouchetée, l'arme du ridicule. Boudé des femmes ! Quelle humiliation ! Surtout quand ces femmes ont le rire pour vengeance. Oh, si, au lieu d'en laisser toute la responsabilité à des femmes, quelque courtisan se fût mêlé à cette intrigue, avec quelle joie Louis XIV eût saisi cette occasion d'utiliser la Bastille. Mais, là encore, la colère royale s'arrêtait, repoussée par le raisonnement. Avoir une armée, des prisons, une puissance presque divine, et mettre cette toute-puissance au service d'une misérable rancune, c'était indigne non seulement d'un roi, mais même d'un homme. Il s'agissait donc purement et simplement de dévorer en silence cet affront et d'afficher sur son visage la même mansuétude, la même urbanité. Il s'agissait de traiter madame en amie. Et pourquoi pas? Ou madame était l'instigatrice de l'événement, ou l'événement l'avait trouvée passive. Si elle avait été instigatrice, c'était bien hardi à elle. Mais enfin, n'était-ce pas son rôle naturel? Qu'il avait été cherché dans le plus doux moment de la lune conjugale pour lui parler un langage amoureux? Qui avait osé calculer les chances de l'adultère, bien plus de l'inceste? Qui, retranché derrière son omnipotence royale, avait dit à cette jeune femme « Ne craignez rien, aimez le roi de France, il est au-dessus de tous, et un geste de son bras armé du sceptre vous protégera contre tous, même contre vos remords. » Donc la jeune femme avait obéi à cette parole royale, avait cédé à cette voix corruptrice, et maintenant qu'elle avait fait le sacrifice moral de son honneur, elle se voyait payée de ce sacrifice par une infidélité d'autant plus humiliante qu'elle avait pour cause une femme bien inférieure à celle qui avait d'abord cru être aimée. Ainsi, madame eût-elle été l'instigatrice de la vengeance, madame eût eu raison. Si, au contraire, elle était passive dans tout cet événement, quel sujet avait le roi de lui en vouloir? Devait-elle, ou plutôt pouvait-elle arrêter l'essor de quelques langues provinciales? Devait-elle, par un excès de zèle malentendu, réprimer, au risque de l'envenimer, l'impertinence de ses trois petites filles? Tous ces raisonnements étaient autant de piqûres sensibles à l'orgueil du roi. Mais quand il avait bien repassé tous ses griefs dans son esprit, Louis XIV s'étonnait, réflexion faite, c'est-à-dire après la plaie pensée, de sentir d'autres douleurs sourdes, insupportables, inconnues. Et voilà ce qu'il n'osait s'avouer à lui-même, c'est que ces lancinantes atteintes avaient leur siège au cœur. En effet, il faut bien que l'historien l'avoue au lecteur, comme le roi se l'avouait à lui-même. Il s'était laissé chatouiller le cœur par cette naïve déclaration de La Vallière. Il avait cru à de l'amour pur, à de l'amour pour l'homme, à de l'amour dépouillé de tout intérêt. Et son âme, plus jeune et surtout plus naïve qu'il ne le supposait, avait bondi au-devant de cette autre âme qui venait de se révéler à lui par ses aspirations. La chose la moins ordinaire dans l'histoire si complexe de l'amour, c'est la double inoculation de l'amour dans deux cœurs. Pas plus de simultanéité que d'égalité. L'un aime presque toujours avant l'autre, comme l'un finit presque toujours d'aimer après l'autre. Aussi, le courant électrique s'établit-il en raison de l'intensité de la première passion qui s'allume. Plus Mademoiselle de La Vallière avait montré d'amour, plus le roi en avait ressenti. Et voilà justement ce qui étonnait le roi. Car il lui était bien démontré qu'aucun courant sympathique n'avait pu entraîner son cœur, puisque cet aveu n'était qu'une insulte faite à l'homme et au roi, puisqu'enfin c'était, et le mot surtout brûlé comme un fer rouge, puisqu'enfin c'était une mystification. Ainsi cette petite fille, à laquelle, à la rigueur, on pouvait tout refuser, beauté, naissance, esprit. Ainsi cette petite fille, choisie par madame elle-même en raison de son humilité, avait non seulement provoqué le roi, mais encore dédaigné le roi, c'est-à-dire un homme qui, comme un sultan d'Asie, n'avait qu'à chercher des yeux, qu'à étendre la main, qu'à laisser tomber le mouchoir. Et depuis la veille, il avait été préoccupé de cette petite, au point de ne penser qu'à elle, de ne rêver que d'elle. Depuis la veille, son imagination s'était amusée à parer son image de tous les charmes qu'elle n'avait point. Il avait enfin, lui que tant d'affaires réclamaient, que tant de femmes appelaient, il avait depuis la veille consacré toutes les minutes de sa vie, tous les battements de son cœur à cette unique rêverie. En vérité, c'était trop ou trop peu. Et l'indignation du roi lui faisant oublier toute chose, et entre autres que Saint-Aignan était là, l'indignation du roi s'exhalait dans les plus violentes imprécations. Il est vrai que Saint-Aignan était tapi dans un coin, et de ce coin regardait passer la tempête. Son désappointement à lui paraissait misérable à côté de la colère royale. Il comparait à son petit amour-propre l'immense orgueil de ce roi offensé, et, connaissant le cœur des rois en général et celui des puissants en particulier, il se demandait si bientôt ce poids de fureur, suspendu jusque-là sur le vide, ne finirait point par tomber sur lui, par cela même que d'autres étaient coupables et lui innocents. En effet, tout à coup, le roi s'arrêta dans sa marche immodérée et fixant sur Saint-Aignan un regard courroucé. « Et toi, Saint-Aignan » s'écria-t-il. Saint-Aignan fit un mouvement qui signifiait « Eh bien, sire !»« Oui, tu as été aussi sot que moi, n'est-ce pas ?»« Sire !» balbutia Saint-Aignan. « Tu t'es laissé prendre à cette grossière plaisanterie ?»« Sire !» dit Saint-Aignan, dont le frisson commençait à secouer les membres. « Que votre majesté ne se mette point en colère. Les femmes, elle le sait, sont des créatures imparfaites, créées pour le mal. » Donc leur demander le bien, c'est exiger d'elle la chose impossible. Le roi, qui avait un profond respect de lui-même et qui commençait à prendre sur ses passions cette puissance qu'il conserva sur elle toute sa vie, le roi sentit qu'il se déconsidérait à montrer tant d'ardeur pour un si mince objet. « Non, dit-il vivement, non, tu te trompes, Saint-Aignan, je ne me mets pas en colère. J'admire cependant que nous ayons été joués avec tant d'adresse et d'audace par ces deux petites filles. J'admire surtout que, pouvant nous instruire, nous ayons fait la folie de nous en rapporter à notre propre cœur. Oh, le cœur, sire, le cœur, c'est un organe qu'il faut absolument réduire à ses fonctions physiques. J'avoue, quant à moi, que lorsque j'ai vu le cœur de votre majesté si fort préoccupé de cette petite... Préoccupé, moi ? Mon cœur préoccupé ? Mon esprit, peut-être ! Mais quant à mon cœur, il était... » Louis s'aperçut cette fois encore que, pour couvrir un vide, il en allait découvrir un autre. « Au reste, ajouta-t-il, je n'ai rien à reprocher à cet enfant. Je savais bien qu'elle en aimait un autre. » « Le vicomte de Bragelonne, oui, J'en avais prévenu votre majesté. »
Sans doute, mais tu n'étais pas le premier. Le comte de la Fère m'avait demandé la main de mademoiselle de la Vallière pour son fils. Eh bien, à son retour d'Angleterre, je les marierai puisqu'ils s'aiment.
En vérité, je reconnais là toute la générosité du roi.
Tiens, Saint-Aignan, crois-moi, ne nous occupons plus de ces sortes de choses, dit Louis.
Oui, digérons l'affront, sire, dit le courtisan résigné.
Au reste, ce sera chose facile, fit le roi en modulant un soupir.
Et pour commencer, moi, dit Saint-Aignan.
Eh bien, je vais faire quelques bonnes épigrammes sur le trio. J'appellerai cela Naïade et Dryade. Cela fera plaisir à madame.
Fais, Saint-Aignan, fais, murmura le roi. Tu me liras tes vers, cela me distraira.
Ah, n'importe, n'importe, Saint-Aignan, ajouta le roi comme un homme qui respire avec peine. Le coup demande une force surhumaine pour être dignement soutenu. Et comme le roi achevait ainsi, en se donnant les airs de la plus angélique patience, un des valets de service vint gratter à la porte de la chambre. Saint-Aignan s'écarta par respect.
« Entrez, dit le roi. »
Le valet entrebâilla la porte.
« Que veut-on ? » demanda Louis.
Le valet montra une lettre pliée en forme de triangle.
« Pour sa majesté, dit-il.
« De quelle part ? » ?»«
Je l'ignore. Il a été remis par un des officiers de service. »
Le roi fit signe, le valet apporta le billet.
Le roi s'approcha des bougies, ouvrit le billet, lut la signature et laissa échapper un cri.
Saint-Aignan était assez respectueux pour ne pas regarder. Mais sans regarder, il voyait et entendait. Il accourut. Le roi, d'un geste, congédia le valet.
« Oh, mon Dieu !» fit le roi en lisant.
« Votre Majesté se trouve-t-elle indisposée ?» demanda Saint-Aignan, les bras étendus.
« Non, non, Saint-Aignan, lis !»
Et il lui passa le billet. Les yeux de Saint-Aignan se portèrent à la signature.
« La Vallière ! » s'écria-t'il. « Oh, sire !»«
Lis, lis !» Et Saint-Aignan lut.
« Sire, pardonnez-moi mon importunité. Pardonnez-moi surtout le défaut de formalité qui accompagne cette lettre. Un billet me semble plus pressé et plus pressant qu'une dépêche. Je me permets donc d'adresser un billet à votre majesté. Je rentre chez moi brisé de douleur et de fatigue, sire, et j'implore de votre majesté la faveur d'une audience dans laquelle je pourrai dire la vérité à mon roi. »
Signé Louise de la Vallière.
« Eh bien, demanda le roi en reprenant la lettre des mains de Saint-Aignan, tout étourdi de ce qu'il venait de lire.
« Eh bien, répéta Saint-Aignan,
que penses-tu de cela ?
Je ne sais trop.
Mais enfin, sire, la petite aura entendu gronder la foudre et elle aura eu peur.
« Peur de quoi ? Demanda noblement Louis.
« Dame, que voulez-vous, sire ? Votre Majesté a mille raisons d'en vouloir à l'auteur ou aux auteurs d'une si méchante plaisanterie. Et la mémoire de votre majesté, ouverte dans le mauvais sens, est une éternelle menace pour l'imprudente.
Saint-Aignan, je ne vois pas comme vous.
Le roi doit voir mieux que moi.
Eh bien, je vois dans ces lignes de la douleur, de la contrainte, et maintenant surtout que je me rappelle certaines particularités de la scène qui s'est passée ce soir chez madame.
Enfin,
le roi s'arrêta sur ce sens suspendu.
« Enfin, reprit Saint-Aignan, votre majesté va donner l'audience, voilà ce qu'il y a de plus clair dans tout cela. »«
Je ferai mieux, Saint-Aignan. »«
Que ferez-vous, sire ?»«
Prends ton manteau. »«
Mais, sire, tu sais où est la chambre des filles de madame ?»«
Certes. »«
Tu sais un moyen d'y pénétrer ?»«
Oh, quant à cela, non. »«
Mais enfin, tu dois connaître quelqu'un par là. »«
En vérité, « votre majesté est la source de toute bonne idée. »«
Tu connais quelqu'un ?»«
Oui. »«
Qui connais-tu, voyons ?»«
Je connais certains garçons qui est au mieux avec certaines filles. »«
D'honneur ?»«
Oui, d'honneur, sire. »«
Avec Tonnet Charente ?» demanda Louis en riant.
« Non, malheureusement, avec Montalet. »«
Il s'appelle ?»«
Malicorne. »«
Bon, et tu peux compter sur lui ?»«
Je le crois, sire. » Il doit bien avoir quelques clés, et s'il en a une, comme je lui ai rendu service, il m'en fera part.
C'est au mieux, partons.
Je suis aux ordres de votre majesté. Le roi jeta son propre manteau sur les épaules de Saint-Aignan et lui demanda le sien. Puis tous deux gagnèrent le vestibule.